Je vous invite à vous tourner, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Je vais lire ce chapitre. Et comme il est dit, ils se levèrent tous. Je vous invite à vous lever pour écouter la parole et vous replacer dans l'atmosphère de ces événements d'une importance si capitale. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant : « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Pilate lui demanda : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule : « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant : « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit : « Vous m'avez amené à cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, ils devaient leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble : « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais ils criaient : « Crucifie-le, crucifie-le !» Pour la troisième fois, Pilate leur dit : « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira : heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous et aux collines : couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant : « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant : « Si tu es le Messie, « Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Car c'était presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Certainement, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat, le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates de parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, nous te remettons cette méditation, Seigneur, sur ta crucifixion. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques. Tu as vaincu, mais Seigneur, nous voulons revenir sur ce que tu as enduré à la croix et sur ce que tu as dit à la croix, Seigneur. Aide-nous à comprendre, à saisir l'ampleur, la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour infini pour chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à vivre à la lumière de cet amour et de cette justice parfaite, Seigneur. Fortifie-nous par ton Esprit Saint pour que nous puissions te rendre gloire par nos vies, par nos paroles, par nos actes, et nos pensées, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, font tous un récit de la crucifixion. L'évangile de Jean parle même de la dernière semaine de la vie de Jésus pour 50% de son volume. 50% de l'évangile de Jean parle de la dernière semaine de Jésus et de son sacrifice pour nous. Là, en lisant ce passage, qui est un passage qui nous replace bien dans le contexte, où on voit, si vous l'avez remarqué, combien Jésus est innocent et combien il est condamné par des hommes qui en veulent à sa vie, pas pour des raisons légales, mais pour des raisons de parti pris. Et en même temps, on voit comment il se laisse faire, et comment il nous donne un exemple. Quand on fait des recoupements avec les autres évangiles, on s'aperçoit qu'en fait, on en a lu quelques-unes ici, que Jésus a prononcé 7 paroles sur la croix. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on médite un peu sur ces 7 dernières paroles de Jésus. On a fait ce genre de méditation il y a quelques années, mais moi-même, j'avais besoin de me remémorer ce qui s'était passé, ce qu'il avait dit. Et ces 7 paroles, c'est un peu la... On sait que le chiffre 7 représente ce qui est complet, ce qui est parfait, au sens d'être intégralement réuni, intégralement complet. On sait qu'il y a les sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept notes de la gamme tempérée, qu'il y a sept jours dans la semaine, qu'il y a dans l'Apocalypse, il y a sept églises. Et là, quand on compte bien, on voit qu'il y a sept paroles que Jésus prononce du haut de la croix. Certains ont même appelé ça, en mettant ensemble ces phrases, le sermon sur la croix. Il y a le sermon sur la montagne, qui est bien connu. Mais là, en quelques paroles, Jésus a prononcé un sermon. On va voir ce qu'il a demandé ou ce qu'il a dit, comment il a prié. Et il faut se rappeler que le supplice de la croix était absolument cruel. C'était un supplice lent qui entraînait une agonie douloureuse où finalement le supplicié finissait par mourir d'asphyxie. Parce que en plus, il était d'abord frappé, fouetté, il perdait beaucoup de sang, il était déshydraté, il y avait des clous dans les mains, dans les pieds, il y avait une douleur intense, mais c'était quelque chose qui durait normalement plusieurs heures, même, voire plusieurs jours. Et on sait qu'on abrégeait des fois la souffrance de ces suppliciés en leur cassant les jambes, parce qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient plus se pousser à prix de grandes douleurs pour essayer de développer un peu d'air d'inspirer un peu d'air dans leurs poumons, et ils finissaient par mourir. Mais tout ce sermon, il est prononcé par Jésus, par amour, alors qu'il a les plus grandes difficultés à respirer. Et à plusieurs instances, dans plusieurs instances, on voit qu'il est dit, il dit d'une voix forte. Et tout ce qu'il a dit, je crois que les dernières paroles d'une personne qui est en train de mourir comme ça, ça devrait nous inciter à réfléchir à ce qu'il a dit. Et on va les regarder les unes après les autres. On a lu déjà dans Luc, si vous regardez Luc, on ira voir dans d'autres évangiles, parce qu'ici, il n'y a pas toutes les paroles qui ont été prononcées, dans d'autres, mais en les mettant ensemble, on s'aperçoit qu'il y en a eu sept. Le premier, ça a été un plaidoyer pour le pardon, et c'est ce qu'on voit dans notre passage de Luc 23, si on regarde au verset 33. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On vient de voir la description des terribles moqueries qui sont proférées par tous les gens qui sont autour de lui. Que ce soit les brigands qui vont périr avec lui, que ce soit les grands chefs religieux de l'époque, que ce soit le peuple, que ce soit tous ceux qui sont les soldats romains. Et il se moque de sa puissance qu'il n'invoque pas sur le moment. Mais Jésus, qui est en train de faire l'acte le plus important de l'histoire des galaxies, le plus important de l'humanité, de l'histoire avec un grand H, il demande à son Père, il prie son Père pour que son Père les pardonne. Et il ajoute, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai que notre réaction lorsqu'on est injustement puni, normalement, ce n'est pas de pardonner les personnes qui nous font du mal, injustement, ou justement même. Ça, c'est tellement contraire à notre vieille nature d'homme, de dire, je te pardonne de me mettre une amende, de rouer de coups alors que je ne le mérite pas. Pardonner, c'est complètement contraire à notre nature humaine, notre vieille nature. Quelqu'un dit pardonner, c'est comme libérer un prisonnier et s'apercevoir que le prisonnier, c'était moi. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, on est emprisonné dans le sentiment de vengeance, dans le désir de faire du mal à l'autre. L'autre a peut-être oublié qu'il vous a fait du mal, mais vous, vous êtes prisonnier de ce désir de revanche. Meurtre de vengeance. En Corse, ce qu'on appelle la vendetta. Tu as regardé ma sœur avec des yeux bizarres, je vais te faire du mal. Et puis après, la famille de la personne à qui on a fait du mal vient pour se venger. Et ça dure des siècles. Si vous allez en Corse, si vous prenez le bateau, vous arrivez à Bastia ou à Saint-Florent ou à Calvi, et là, dans les magasins de souvenirs, vous pouvez acheter des petits couteaux très effilés, très dangereux, qui devaient être parfaits pour la vendetta. Et dessus, il est imprimé « Que la mia ferita sia mortale ». Et ça veut dire que ma blessure soit mortelle. On ne plaisante pas. Il y a l'honneur, les vengeances. On entend parler des règlements de compte à Marseille, des fois à Nice. C'est le même principe. On ne veut pas pardonner. Et on a toujours cette peur que quelqu'un d'autre, si on se venge, va à son tour se venger. Caïn, qui avait tué injustement son frère Abel parce que le sacrifice offert par Abel avait été bien reçu par Dieu et que le sien n'avait, semble-t-il, pas été autant apprécié par Dieu, il avait, après avoir tué son frère, il disait qu'il avait peur d'être tué à son tour par quelqu'un d'autre. Les soldats sont là en train de se moquer de lui, de partager ses vêtements, et il dit à son père, « Pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme disait le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui prophétisent la crucifixion, la croix. Et il y a notamment le fameux passage d'Ésaïe 53. On va lire plutôt la fin, on ne va pas tout lire. L'Éternel, verset 10, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance, il parle du serviteur. Qui préfigure Jésus, si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Et ça, c'est justement lorsqu'il prie pour tous ces gens coupables, il demande à son père de les pardonner. C'est vraiment quelque chose qui est contraire à notre nature d'homme. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment pardonner. Il est intervenu en faveur des coupables. Et on a besoin de Dieu pour pouvoir vraiment pardonner aux autres les torts qu'ils peuvent nous causer. Vous avez peut-être entendu parler d'une célèbre chrétienne qui avait, d'origine hollandaise, Corrie ten Boom. Vous avez peut-être lu ses livres ou vu des vidéos sur sa vie. C'est une chrétienne qui, dans la famille, cachait des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les soustraire aux nazis qui les recherchaient. Et la famille a fini par se faire prendre et tous ont été envoyés en camp de concentration. à Ravensbrück. Pratiquement toute la famille de cette femme est morte aux mains des gardiens de prison, des gardiens des SS et d'horribles souffrances. Mais elle a survécu et elle a commencé à être connue parce qu'elle c'était une chrétienne engagée qui faisait beaucoup de bien autour d'elle. Et un jour, un homme est venu la voir en lui disant « Est-ce que vous me reconnaissez ?» Elle ne l'a pas reconnu tout de suite, et puis elle a reconnu en fait un de ses geôliers, un de ses gardes qui avait tellement fait souffrir sa famille. Il lui a dit « Madame Tenboum, je veux vous dire que je suis devenu chrétien et je viens pour vous demander pardon pour tout le mal que j'ai pu faire souffrir. » dont j'ai pu faire souffrir votre famille, est-ce que vous acceptez de me pardonner ? Et elle a répondu honnêtement, elle a dit, ça m'est absolument impossible de vous pardonner. Sa famille était morte dans d'horribles souffrances, des conditions inimaginables. Mais elle a dit, mais l'Esprit de Dieu en moi peut vous pardonner. Et il vous pardonne. Et du coup, l'homme s'est réjoui, l'a pris dans ses mains, et elle a dit que lorsqu'elle a fait ce geste, c'est comme une chape de plomb l'avait quittée. Elle s'était sentie libérée du poids de toute cette amertume, de tout ce désir de revanche, tous ces souvenirs qui la tenaient captive. Le pardon, on n'y arrive pas tout seul, mais avec l'aide de Dieu, on peut le vivre. Et c'est une chose merveilleuse d'être pardonné. Ça, c'était le premier message de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il veut nous enseigner que le pardon, c'est essentiel à la vie chrétienne. Deuxième message, on le voit un peu plus loin dans notre passage, dans Luc 23, 43. On voit c'est une promesse de salut, une promesse du paradis. Jésus est donc mis à mort, crucifié avec ces deux brigands, deux malfaiteurs qui avaient sans doute commis des crimes importants. Et ils sont tous dans la même galère, si je puis dire. Et il y en a un qui continue de se moquer de Dieu, et l'autre qui le reprend, qui lui dit, tu n'as aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous ce n'est que justice, nous méritons, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci, parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus, c'est sa deuxième parole, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Rien ne distingue ces deux malfaiteurs qui sont condamnés à mort, et pourtant l'un va avoir la vie éternelle et l'autre va finir loin de Dieu en enfer. Pourquoi ? Parce qu'il y a la différence de l'un qui découvre la foi. Et on peut penser que c'est une réponse à la première prière de Jésus. Pardonne-leur. Ça incluait aussi ces brigands. Et Jésus, Dieu, est prêt à pardonner l'un d'entre eux qui vient à Jésus en disant tu ne méritais pas cette mort, et il lui demande de se souvenir de lui quand il viendra régner. Il fait preuve de foi en Christ, en Jésus. Et ça fait toute la différence, parce que Jésus lui dit que tu es sauvé. Aujourd'hui, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. On n'a pas le temps de faire une étude du paradis, mais c'est d'être en présence de Dieu pour l'éternité, d'être en présence de Jésus et on voit que Jésus a prié et Dieu a répondu. Ça, c'est un encouragement pour nous de continuer à prier pour les êtres chers que nous aimons, qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous ne savez jamais à quel moment les cœurs vont s'ouvrir. Et quelqu'un va demander à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Peut-être que vous priez depuis des années pour un enfant, pour un parent, pour des amis. Continuez de demander à Dieu de les pardonner, de leur pardonner. Continuez à prier pour qu'ils ouvrent leur cœur. Ce verset 43, si vous remarquez bien, il y a une chose intéressante. C'est « Tu seras avec moi ». Nous, on dira « Ah, on voudrait être au paradis ». La chanson nous promet qu'on ira tous, même si ce n'est pas biblique du tout, hein, ne pas lui faire confiance à cette chanson qui dit « On ira tous au paradis », ce n'est pas vrai. Mais ce qui est plus important encore que ce lieu de félicité, c'est le fait qu'on est avec Jésus-Christ. Et ça, c'est la chose la plus importante. Dans votre vie, quelles que soient vos circonstances, vous pouvez être avec Jésus. Vous vous souvenez que Moïse, lorsque Dieu l'envoyait pour libérer son peuple, il lui disait « Ne m'envoie pas si tu ne viens pas avec moi. » Le but de notre vie, en fait, c'est d'être dans l'intimité avec le Tout-Puissant. C'est quelque chose qui est à notre portée. Il est aussi près de nous que nous allons vers lui. Dans toutes les circonstances de nos vies, dans toutes nos pensées, dans nos actes, il nous appartient de dire « Je veux être avec Jésus ». Ça ne veut pas dire que vous allez être prêtre, missionnaire, pasteur. Vous pouvez vaquer à vos activités, à vos préoccupations, vous occuper des choses importantes de votre vie, mais toujours avec cette présence de Jésus. « Jésus, je serai avec toi ». C'est une promesse splendide, c'est une promesse formidable. Est-ce qu'il est votre ami, Jésus-Christ? Est-ce qu'il est votre confident? Est-ce qu'il est la personne à qui vous pensez lorsque ça ne va pas ou lorsque ça va bien? Est-ce que c'est lui qui prend les décisions importantes de votre vie? Est-ce qu'il est celui qui vous dirige? Est-ce qu'il est dans votre cœur? Ce qui est remarquable, encore une fois, c'est que Jésus ne fait pas de différence. Là, il est en train de sauver l'humanité. Si vous étiez en train de sauver l'humanité et quelqu'un vienne vous embêter en disant « Tu te rappelleras de moi ?» On dirait « Attends, laisse tomber, j'ai des choses qui m'occupent. » Non, Jésus, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de différence entre une seule personne et l'humanité tout entière. Dans l'histoire de l'humanité. Pour lui, il n'y a pas de différence. Nous, on a nos petits compartiments, là, ça c'est important, ça c'est moins important. On verra, il y a d'autres aspects de sa personnalité qui fait qu'il s'adresse aussi bien à une personne qu'à une foule. Il est merveilleux. Dieu peut nous parler individuellement dans un grand rassemblement. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, on a tout un groupe qui est parti à la montagne s'occuper d'un camp de jeunes. On priera pour eux. Je vous invite à les garder dans vos prières. Mais il peut parler à l'ensemble d'une assemblée, donner des directions, mais il peut vous parler à chacun et chacune de vous, d'entre vous. C'est cette promesse de salut, promesse d'intimité avec Dieu dans Luc 23, 43. Troisième parole, on va regarder, c'est dans un autre évangile, c'est dans Jean 19, 25 et 27. Si vous voulez vous y tourner. Donc c'est sur la droite, Luc, Jean. Il est près de la croix, il est dit, verset 25, Jean 19, 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple a pris chez lui. Le disciple en question, c'est Jean lui-même qui écrit cet évangile, mais qui ne se nomme pas. Et on voit que Jésus, qui encore une fois est en train de faire quelque chose de grandiose, de sauver toute l'humanité, il veut que sa mère soit pourvue après son départ, lui. La famille, c'est quelque chose d'important dans la Bible. C'est pas quelque chose de rétrograde qu'il faut dépasser pour la libération de la société. Non, la famille, c'est la pierre angulaire de la société. S'il n'y a pas des familles solides où les enfants sont élevés avec deux parents, alors bien sûr, il y a des tas de raisons pour lesquelles ça ne se passe pas comme ça. Mais Dieu donne toujours une place de choix, une place importante à la famille. Et là, Jésus, qui est en train de sauver l'humanité, il se dit, il n'y a pas encore la sécu, il n'y a pas encore d'organisations qui vont prendre soin de ma mère. Il s'occupe de trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle. On peut imaginer que la douleur de cette maman. Parmi nous, il y a des mamans. Et même des pères, ça serait difficile. Mais imaginez que vous êtes là et que vous voyez votre fils mourir une lente agonie sur une croix injustement. On pourrait dire que c'est comme si une épée lui transperce l'âme. En fait, c'est une prophétie que ce vieil homme, Siméon, avait fait à Marie. Vers Luc 2, chapitre 2, verset 25, « Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » On a parlé de cet homme à l'époque de Noël. C'est beau, Dieu lui avait promis qu'il verrait le Messie et il dit que ses yeux ont vu le salut d'Israël. Et puis les versets continuent. « Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Et là, cette prophétie qu'elle est en train de vivre devant la croix, « Toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Elle est elle-même à l'agonie de voir son fils. Les frères ou demi-frères de Jésus n'ont pas encore mis leur foi en lui. Ce n'est qu'après sa résurrection que beaucoup viendront à lui. Et il prend la personne en qui il a le plus confiance, son apôtre Jean, et il lui demande de prendre soin de sa maman. Et il est dit qu'à partir de ce moment-là, c'est Jean qui a pris soin de Marie. Jésus montre de la compassion pour sa maman, alors que lui est en train de souffrir l'agonie. On voit encore une fois qu'il n'y a pas de différence entre ce qui nous semble naturel, nos relations avec nos parents, et leur relation spirituelle avec Dieu en train d'accomplir le salut de l'humanité, en train de mourir, lui l'agneau immolé pour le pardon des péchés. Mais pour Jésus, il n'est pas schizophrène pour deux sous, Jésus. Et lorsque nous sommes habités par lui, lorsque nous vivons avec lui, lorsqu'il est avec nous, il n'y aura plus de schizophrénie dans nos vies. Il n'y aura pas le top sacré qui consiste à venir peut-être au culte le dimanche et puis après il y a le reste de la semaine où on vit pour nous comme tout un chacun, sans différence. Donc quand Jésus est présent, toute notre vie est touchée, toutes nos relations sont affectées en bien, et c'est formidable. Donc il demande la provision pour sa mère. Après le plaidoyer pour le pardon, la promesse du salut, il demande la provision pour sa mère. On va aller voir un autre évangile, Matthieu 27. Donc là, on tourne à gauche. Le premier évangile. Versets 45 et 46. C'est dans notre évangile de Luc, mais là c'est plus détaillé. À partir du verset 45, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ». Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver ». « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une cotation, c'est plutôt une citation, c'est le mot anglais, quotation, citation d'un psaume. C'est le psaume 22. Qui est un des grands psaumes messianiques, c'est-à-dire qu'il y a des prophéties sur le Messie. Il prophétisait la mort par crucifixion, alors qu'elle n'avait pas encore été inventée par les Assyriens. Ce psaume a été écrit donc près de 1000 ans avant les événements de la croix. C'était 300 ans avant l'invention, encore une fois, de ce supplice terrible. Ça commence justement verset 2. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas, la nuit, je ne trouve pas de repos. » Ce sentiment d'être abandonné. Certains se demandent si, en fait, Jésus ne faisait que réciter ce psaume. Mais quand on voit les circonstances et qu'on comprend ce qui se passe, en fait, c'était le psaume 22 qui prophétisait l'expérience qu'il allait faire de se sentir complètement abandonné, complètement rejeté par son Père. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit que Jésus est devenu péché pour nous. C'est le grand passage de la réconciliation. Et Paul dit, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui, il vous interpelle. Si vous n'êtes pas encore en relation avec Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas accepté comme votre Sauveur, votre Seigneur, Paul et moi, à une modeste façon, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, et c'est là, c'est remarquable, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est le grand échange de l'histoire. Les hommes viennent, tout ce qu'on a à offrir, c'est nos péchés. Jésus les prend, il devient péché pour nous, afin qu'en lui, nous recevions sa justice. Sa perfection morale, son absence de péché, nous pouvons la recevoir. On arrive, c'est le meilleur troc, si je peux me permettre ce mot un peu familier. On amène nos péchés et il nous donne sa justice, qui s'accompagne de sa paix, de l'absence de culpabilité, de pardon. Et les hommes nous disent, ah non, 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 moi je suis athée, la religion c'est une béquille pour les faibles. C'est être stupide que de ne pas accepter cette offre. Est-ce que vous avez déjà accepté cette offre? Si vous ne l'avez pas fait, il est aujourd'hui grand temps de le faire. Il l'a fait devenir péché, et c'est pour ça que c'était terrible et qu'il se sentait abandonné du Père. C'est que le Père étant parfait et Jésus ayant reçu le péché de toute l'humanité sur lui, les péchés passés, présents, futurs, toutes les choses les plus horribles que vous pouvez imaginer, la corruption, les viols, les meurtres, Je ne vous demande pas de faire des efforts dans ce domaine, mais sachez que tout ce qui vous pourrait vous passer par la tête, il l'a porté sur lui. Et du coup, ça a mis fin à cette intimité éternelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'était terrible. La souffrance physique était une chose. Il y avait des milliers de personnes qui passaient par des crucifixions à l'époque. Mais ils étaient tous là parce qu'ils avaient commis des crimes, comme ces brigands. Jésus, lui, c'est parce qu'il s'offrait en sacrifice par amour pour moi et pour vous. Il était là pour aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il disait dans le jardin de Gethsémani, s'il y a une autre solution que cette coupe qui représentait la souffrance qu'il allait endurer, passe mes lèvres. Père, tu es sûr qu'on a bien réfléchi, on aurait pu peut-être trouver une autre façon de racheter l'humanité. Non, il n'y en avait qu'une seule, c'était la mort du Fils de Dieu, la mort de l'agneau parfait qui s'offrait en sacrifice, lui dont le sang était parfait. On a chanté le sang de Jésus et on a dit que le sang de Jésus, il était Dieu parce qu'il est question du sang de Dieu qui a été versé. Cette justice, cette perfection morale que nous ne méritons pas, elle nous est imputée. C'est un terme bancaire, ça veut dire qu'elle est mise sur notre compte. On a un compte, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un compte dans le ciel, pas avec vos états financiers, mais avec votre état moral. Et quand on commence, on est tous coupables. Et la justice de Dieu, elle est mise sur notre compte. Pourquoi ? Parce qu'il a payé ma dette à la croix. C'est un peu comme si vous êtes à découvert sur vos comptes bancaires et puis que Bill Gates vous envoie des milliards et il rend flou toutes nos dettes. Jean dit dans 1 Jean 2, 2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, parlant de ceux qui sont déjà chrétiens, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est mort pour tous les hommes, pas seulement pour ceux qui sont déjà chrétiens ou ceux qu'ils sont devenus. Il est mort, lui qui ne méritait rien, en aucune façon de mourir. Il est mort pour les bouddhistes, pour les musulmans, pour les athées, pour les républicains, pour les gauchistes, pour les extrêmes droites, pour l'extrême gauche. Il est mort pour tous les hommes et les femmes, pour les péchés du monde entier. Il s'est offert en sacrifice expiatoire qui accorde le pardon et qui nous donne la paix. On a dit qu'il était là à essayer de respirer, de prendre un peu d'air dans ses poumons. Et la cinquième parole, il va demander de l'aide. On le voit dans Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, que les prophéties s'accomplissent, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Et Jésus prit le vinaigre, et là, il allait dire une autre parole. Mais il a reconnu qu'il avait soif. Ça, c'est une prophétie du psaume 69. Il est dit, ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Ce n'est pas la meilleure des boissons, mais Jésus a reconnu sa souffrance humaine. Jésus est parfaitement Dieu, il est en train d'accomplir le salut de l'humanité, mais il est aussi un homme qui souffre physiquement. Et il avoue qu'il a soif. On lui avait proposé dans d'autres passages qu'il prenne de la myrrhe, qui était une espèce de drogue qui pouvait diminuer les souffrances. Mais là, il avait refusé. Là, il prend juste un peu d'eau pour humecter sa bouche et pouvoir continuer de parler un peu. Ce qui est remarquable, c'est de réaliser que tout est prophétisé. Toute cette description que nous avons lue dans Luc 23, c'est prophétisé. Il y a plus de 300 prophéties qui décrivent ce que allait être la mort de Dieu pour notre salut, la mort de Jésus-Christ. Jésus, n'est pas une victime sans force. À chaque instant, il le dit lui-même, il pourrait invoquer l'aide de son Père, envoyer des légions d'anges qui ne feraient qu'une bouchée de tous ces hommes qui sont en colère contre un Dieu qui les aime. Il leur dit, j'ai soif. Il faut réaliser que les psaumes, c'était le Deezer, le Spotify, les playlists des Juifs. C'était des chants qu'ils connaissaient par cœur. Je suis sûr que si je reprenais quelques mesures de chants de votre jeunesse, vous seriez capable de continuer à chanter. On a joué il n'y a pas longtemps à reconnaître des morceaux de musique et on voit que c'est fonction de l'âge des gens. Il y en a qui reconnaissent tout de suite des chants d'il y a 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient jeunes à l'époque. Et 50, 40 ou 30 ou 20, mais quand Jésus parlait de reprenait des paroles, tout de suite ça évoquait des prophéties, ça évoquait des psaumes. les soldats romains ne savent pas, ne connaissaient pas ces chants, ne connaissaient pas ces psaumes. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire la volonté du Père. Ils pensaient qu'ils étaient en train de donner libre cours à leurs sentiments. Là, ils voyaient quelqu'un qui avait l'air bien gentil et qui avait soif, il donnait, mais c'était prophétisé. Dieu est maître de l'histoire. On est à la veille d'une élection, on se demande qu'est-ce qui va se passer. C'est une banque américaine qui a dit « Quel que soit le résultat de l'élection, JP Morgan se portera bien. » Une grande banque financière. Mais ça, c'est une boutade. Mais quel que soit le résultat des élections, Dieu est sur le trône. Tout ira bien avec toi, mon enfant. On aura peut-être des temps intéressants. Qui que ce soit, on sera tous contents, déçus, surpris. Mais Dieu contrôle l'histoire. Et s'il doit faire venir tel candidat, s'il doit faire venir tel président aux États-Unis pour que les choses se passent et que les choses qui ont été prophétisées se déroulent, eh bien, ça va arriver. Le sixième parole de Jésus, c'est dans Jean, justement, 19:30. C'est une proclamation de victoire. On a vu un plaidoyer pour le pardon, une promesse de salut, une provision pour sa mère, une pétition auprès du Père, comme une supplique, un plaidoyer pour de l'aide quand il a demandé à boire. Là, c'est une proclamation de victoire. Il dit, donc verset 30 de 19, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. » Tout est accompli. En français, c'est trois mots. En grec, c'était un seul mot. Tetelestai. Fini. Finish. Plus rien à ajouter, plus rien à faire. Tout s'est déroulé parfaitement comme prévu. C'était le mot qu'on utilisait pour dire lorsque vous remboursiez une dette. C'est bon, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini, c'est accompli. Là, Jésus est venu accomplir une mission, sauver le monde, prendre nos péchés sur lui, payer la punition qu'il mérite, que nous méritons, la prendre à notre place. Et là, il nous dit, c'est fait, il n'y a plus rien à ajouter. C'est un peu comme si vous faites une salade niçoise. Vous êtes niçois, vous avez reçu la recette de vrai niçois et vous avez mis les ingrédients et puis il y a votre voisine ou votre femme qui dit « Tiens, on va rajouter des cacahuètes. » Elle dit « Non, t'étais l'estaille. Il n'y a rien à ajouter. Ne viens pas tout gâcher. » Et Jésus nous dit « Ne venez pas tout gâcher en ajoutant quelque chose à ce que j'ai déjà fait. » Vous ne pouvez pas gagner votre salut par vos bonnes œuvres. Elles ne vous servent de rien, elles ne vous causent que de donner de l'importance à vous-même. Comptez seulement sur ce qu'a accompli Jésus-Christ à la croix pour être sauvé. Il n'y a plus rien à ajouter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, parce qu'une fois qu'il vous recevez ce don, alors il vient vous transformer, il vous remplit de son Esprit Saint. Il change votre vie de l'intérieur. Mais ne comptez pas sur ses bonnes actions, sur ses bonnes pensées, sur votre fréquentation d'une église, sur votre lecture quotidienne de la Bible pour être sauvé. N'ajoutez pas de cacahuètes. C'est parfait. Impeccable. C'est ce que Jésus nous dit. Et encore une fois, c'est pas une victime sans défense, il est venu, il a fait la volonté du Père. Et finalement, il y a une septième parole qu'on retrouve en revenant à Luc 23. Luc 23, 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est là qu'il est mort. Après avoir dit ces paroles, il expira. Père, je remets mon esprit entre tes mains. En fait, là encore, ça, c'était dans la playlist des Juifs qui étaient autour. C'était le psaume 31, verset 6. C'était un chant qui était très bien connu de tous les Juifs, parce que c'était le chant qu'on faisait chanter aux petits-enfants le soir lorsqu'ils s'endormaient. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Autrement dit, « Mon Dieu, je te fais confiance pour me donner une bonne nuit et me réveiller demain matin. » Donc c'était un chant de confiance en Dieu. Et Jésus nous indique comment il faut avoir confiance dans ce que Dieu fait pour nous. Alors, c'est pas habituel, parce qu'il est dit par ailleurs qu'il avait l'autorité de donner sa vie et de la reprendre. Il avait fait la comparaison dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple employé, le salarié, lui, quand le loup arrive, il s'enfuit parce que ce ne sont pas ses brebis. » C'est une prière de confiance absolue. Il s'en remet à Dieu. Et dans le sermon qu'il prêche depuis la croix, en nous parlant de pardon, de salut, de famille, de punition méritée par nos péchés, du besoin d'aide, de victoire en lui, il veut nous apprendre à nous confier à Dieu. Si on le regarde, comment il se comporte sur la croix, on voit que son dernier message, au-dessus de toute chose, c'est « remettez-vous-en à Dieu ». Bien souvent, nous nous torturons l'esprit, nous perdons du sommeil parce que nous essayons de voir les tenants, les aboutissants de nos situations. Nous avons une part de responsabilité, bien sûr, d'analyser ce que nous faisons, mais en fin de compte, vous pouvez vous en remettre à Dieu. Comme ces enfants juifs, lorsque vous faites cela, vous recevez la paix profonde de la foi. Et bien sûr, tout ça, c'était sur la croix. Et aujourd'hui, on célèbre la résurrection qui prouve que tout ce qu'il a fait a été accepté par le Père. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné dans tes derniers instants. Et c'est vrai qu'il est recueilli par les différents évangélistes, Seigneur, mais on voit que c'est toi qui nous apprends à nous comporter dans toutes les circonstances, Seigneur. C'était des circonstances extrêmes, et là, tu demandais le pardon pour les autres. Tu étais convaincu qu'en toi, il y avait, et nous voulons l'être, Seigneur, nous le sommes, qu'en toi, il y a le salut, il y a la promesse de la vie. Seigneur, nous voyons aussi que tu veux que nos relations familiales soient pleines d'amour, pleines de compassion. Tu veux que nous réalisions que le péché est terrible et qu'il mérite la séparation, il t'a mérité la séparation d'avec le Père, la chose la plus terrible, au-delà de la douleur physique. Tu veux nous apprendre que nous avons, il est naturel et il est bien de demander de l'aide physique, de l'aide morale. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu de dépendance, Seigneur, et tu nous rappelles que tu as tout accompli à la croix. Sois glorifié pour ça, Seigneur. Et en fin de compte, Seigneur, tu veux que nous apprenions à te faire davantage, toujours davantage confiance pour nos vies, pour nos problèmes, pour nos situations difficiles, Seigneur. Même dans nos joies, Seigneur, tu veux que nous pensions à toi, tu veux que nous soyons avec Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Prions ces choses dans son précieux nom, comme nous l'avons vu encore ce matin. Il a souffert la mort la plus terrible par le plus grand des amours pour chacun de nous, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Amen.